Seigneur, ce soir, fais-nous sentir ta présence à travers la paix dans notre cœur. Donne-nous vraiment cette paix profonde qui nous permet d'être libérés de tout ce qui nous assaille souvent dans la journée, nos soucis, nos angoisses, nos désirs, nos souffrances. Donne-nous ce soir, Seigneur, un espace de paix dans notre cœur. Pour que nous puissions accueillir ta présence, ta parole, qu'elle puisse s'inscrire en nous profondément et porter du fruit dans nos vies. Que l'Esprit Saint puisse venir en nous et souffler cette brise légère qui nous donnera la force dont nous avons besoin pour avancer dans la vie et pour faire ta volonté. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 17, à partir du verset 3. Si ton frère vient à pécher contre toi, fais-lui des reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Et si sept fois par jour il pêche contre toi, et que sept fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Voilà cette parole du Seigneur que l'évangéliste saint Luc a recueillie et qu'il a mis dans son évangile, cette parole sur le pardon. Vous savez certainement que le pardon est au cœur de l'enseignement de Jésus. Et c'était quelque chose d'assez nouveau, pas forcément pour les Juifs, parce qu'ils connaissaient déjà cette réalité du pardon à travers la révélation qui leur était donnée, mais pour le monde païen de l'époque, pour ceux qui ne connaissaient pas la révélation, eh bien, le pardon n'était pas vraiment quelque chose d'habituel. Au temps de Jésus, avant, dans l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine, on estimait qu'on pouvait pardonner, ça existait, mais il ne fallait surtout pas trop pardonner, parce que trop pardonner, c'était faire preuve de faiblesse. Un philosophe comme Platon disait cela. Donc on pouvait pardonner, voilà, mais il ne fallait pas abuser de cela, sinon c'est un signe de faiblesse et ça pouvait encourager les autres à faire n'importe quoi. Et puis soi-même, finalement, pardonner, on montrait qu'on n'avait pas la force de se venger. Alors lui, le Seigneur, nous invite au contraire à ne pas nous venger et à pardonner. Et s'il nous invite à cela, c'est que quand quelqu'un nous fait du mal, quand on est blessé, première réaction spontanée, c'est de vouloir rendre le mal pour le mal. Donc peut-être qu'on va avoir des insultes qui vont sortir par la bouche, simplement dans notre cœur. Et peut-être que si cette blessure est profonde, on va désirer que cette personne souffre au moins au minimum la souffrance qu'elle nous a infligée. Cette fameuse formule qu'on trouve chez les Juifs de l'époque, c'était le « œil pour œil, dent pour dent ». Cette formule était déjà une formule qui était un progrès, parce qu'elle voulait dire que si quelqu'un m'enlevait un œil, je lui enlevais un œil, mais pas plus, je n'enlevais pas la vie. C'était déjà un progrès au fait de vouloir en faire plus que ce qu'il nous avait fait. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, mais le Seigneur nous dit, non, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, je te demande de pardonner. Alors quand le Seigneur nous demande de pardonner, eh bien, si vous dites ça à un enfant, il va assez facilement entrer dans cette logique du pardon. Si vous lui demandez de pardonner, si vous-même vous lui demandez pardon, l'enfant verra que même les adultes demandent pardon. Donc, il aura lui-même le désir de pardonner, parce qu'il verra dans son cœur que ça permet à la famille de rester unie, de se pardonner mutuellement. Voilà, mais quand on est adulte, on a pris conscience aussi du mal qu'on peut faire soi-même ou qu'on nous a fait. Quelque part, notre cœur a plus de mal, parfois, de rentrer dans cette dimension parce qu'on a été usé par les épreuves, parfois désillusionné sur l'amour, et qu'on sait aussi que dans notre monde, il y a des personnes qui sont, nocives. Des personnes qui sont nocives, parfois elles ne s'en rendent pas compte elles-mêmes, mais il y a beaucoup de personnes nocives. Et on se rend compte aussi que parfois, dans notre cœur, ce n'est pas toujours extraordinaire ce qu'il y a dans notre cœur. Heureusement que les autres ne voient pas toujours nos pensées. Mais le Seigneur nous offre ce pardon comme une grâce pour nous libérer. En effet, Dieu lui-même nous pardonne sans cesse, c'est ce que nous lisons dans notre Père, le Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Et Dieu nous pardonne sans cesse parce qu'il sait que s'il ne nous pardonne pas, nous ne pouvons pas, eh bien, revenir, nous sommes liés, nous ne pouvons pas réparer ce que nous avons fait. Le mal que nous avons fait est trop important, nous ne pouvons pas réparer. Donc il faut que Dieu nous remette notre dette et nous pardonne totalement. Et Jésus, sur la croix, paye la dette pour nous. Le Fils de Dieu paye la dette pour nous. Et vous voyez là que quand Dieu nous pardonne, il n'oppose pas le pardon à la justice. Il y a vraiment une justice qui est toujours là. Il y a une dette à payer et c'est Jésus qui la paye. Donc le pardon n'élimine pas la justice, contrairement à ce qu'on croit. Parce que c'est Jésus qui paye la dette pour nous. Alors, nous-mêmes, quand nous sommes offensés, si l'offense est légère, si nous avons appris à pardonner, nous y arriverons. Mais si l'offense est lourde, si dans notre enfance, je pense par exemple à des personnes qui ont eu des parents torsionnaires, très durs, qui ont eu des souffrances extrêmes durant leur enfance, pendant longtemps, pendant des années, ces personnes seront impactées durant toute leur vie par ce qu'elles ont vécu, des parents ou d'autres personnes d'ailleurs, seront impactées toute leur vie par ce qu'elles ont vécu, elles seront toujours dans cette souffrance, cette mémoire de ce qu'elles ont vécu, et ça reviendra régulièrement en elles, cette souffrance, surtout par exemple quand elles verront des familles apparemment heureuses où le pardon se donne plus facilement. Et dans ce cas-là, Jésus nous invite aussi à pardonner. Alors il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus ne nous invite pas à pardonner forcément tout de suite. Quand nous avons des offenses graves, il y a d'abord peut-être à reconnaître bien qu'on a été offensé et à le dire à la personne qui nous a offensés. C'est un élément de la justice. Il faut dire les choses. Parce que si on ne le dit pas à la personne, peut-être qu'elle ne se rend pas compte du mal qu'elle fait et elle ne va pas pouvoir avancer. Alors il y a des manières de le dire. Parfois, il faut le dire. Parfois même, quand on pardonne, il faut quand même punir la personne. Parfois, il faut quand même la punir. Le pardon n'est pas opposé à la punition, contrairement à ce qu'on croit aussi. Par exemple, un enfant qui a fait une bêtise, parfois je vais lui pardonner, puis il n'aura pas de punition, mais parfois je vais le punir quand même, parce que sinon il ne prend pas conscience du mal qu'il a fait. Mais je lui pardonne. Ça veut dire que je ne lui tiens plus compte de cette faute, simplement. Cette punition va faire quelque chose que je vais lui demander pour grandir, pour réparer, pour sortir du mal qu'il a fait. Ce n'est pas une punition vengeance, c'est une punition qui va l'aider à avancer. Ce n'est pas forcément une punition qui va l'humilier, ça peut être une punition qui va au contraire l'encourager. Le pape nous invite dans l'éducation comme ça à avoir de la finesse et à ne pas punir pour se venger, mais que toute punition vis-à-vis d'un enfant l'aide à avancer. Voilà, donc parfois il faut beaucoup de temps pour pardonner. Joseph, quand il a été vendu par ses frères, vous savez l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, il a été vendu par ses frères. Donc, ses frères ont raconté à son père qu'une bête l'avait tué. Bon. Ensuite, Joseph va se retrouver premier ministre en Égypte et ses frères vont venir en Égypte et donc ils vont se retrouver à sa merci. Joseph n'a pas forcément envie tout de suite de pardonner. On le voit dans le texte, il n'a pas forcément envie tout de suite de pardonner. Il met d'abord ses frères en prison. Mais en prison, il va écouter ses frères, il va les espionner et il va voir que ses frères se repentent. Ses frères, quand ils sont en prison, ils prennent conscience du mal qu'ils ont fait. Et là, Joseph commence à avoir envie de pardonner à ses frères. Parce qu'il sait que ce pardon, va leur donner la possibilité d'être libérés du mal qu'ils ont fait, parce qu'eux-mêmes ont fait un chemin. Eux-mêmes ont fait un chemin pour avancer. Un certain chemin, pas tout le chemin, un certain chemin. Et on voit donc que Joseph, progressivement, va pouvoir pardonner à ses frères, mais entre le moment où ses frères l'ont offensé, l'ont vendu, et le moment où le pardon a été donné, il y a plus de 20 ans qui s'est passé dans l'histoire de Joseph. Donc ça veut dire que la Bible sait bien que parfois il faut des dizaines d'années, quand l'offense est grave, pour arriver à poser ce pardon, parce qu'il y a toute une guérison intérieure qui doit s'opérer dans la personne qui pardonne. Et quand la personne pardonne, non seulement elle délie celle qui lui a fait du mal, de la faute qu'elle a fait, mais elle se délie aussi elle-même. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, le mal qu'on nous a fait ravage notre cœur. Le mal qu'on nous a fait est comme un poison qui ravage notre cœur. Et donc quand on pardonne, on se libère aussi soi-même de ce poison. Dernière chose que je voulais dire ce soir, il y a beaucoup de choses à dire, c'est que le pardon est une grâce qu'il faut demander à Dieu. Et quand c'est trop difficile de pardonner, moi je recommande aux personnes de faire comme le Seigneur sur la croix. Jésus sur la croix, il ne dit pas « Père, je leur pardonne leurs péchés, mais Père, pardonne-leur. Voilà, je te remets ce pardon, je te demande de le faire. » Et donc en nous-mêmes, on n'arrive pas encore à pardonner. Jésus aurait pu le faire lui-même, bien sûr, mais il préfère le faire faire par son Père pour nous montrer que ce pardon, nous pouvons le remettre en Dieu et lui demander à Dieu de lui-même pardonner à cette personne pour nous, quand pour nous c'est trop difficile de poser ce pardon. Alors si je parle du pardon, c'est aussi parce que le pardon va nous aider à guérir. Parfois, il y a des guérisons qui ne viennent pas, pas toujours, mais parfois il y a des guérisons qui ne viennent pas parce que dans notre cœur, il y a de la haine, et le Seigneur ne peut pas nous guérir s'il y a de la haine dans notre cœur. Donc il faut que ce pardon vienne dans notre cœur pour que le Seigneur guérisse. Voilà, ce soir, je demandais à Véronique de venir témoigner. Alors, depuis le début de l'année, j'ai donné beaucoup de témoignages de guérison. Ce soir, Véronique témoignera aussi d'une guérison qu'elle a reçue. Elle est venue donner son témoignage suite à l'appel que j'avais fait à la paroisse Saint-Sulpice, où il y avait une prière des malades le 11 mai avec l'archevêque de Paris. Véronique va aussi nous témoigner comment la maladie elle-même, dans la maladie elle-même, elle a reçu des grâces du Seigneur. Pas simplement la guérison qu'elle a obtenue, mais comment aussi le Seigneur fait que sa maladie est devenue aussi une grâce pour elle.
Il y a 2 ans de cela, durant l'été 2017, ma vie basculait du jour au lendemain. J'apprenais que j'avais un cancer du sein et j'entrais à l'Institut Curie. Il fallait commencer immédiatement un protocole de chimiothérapie et je n'eus pas le choix de la date. Ce serait le 15 août. Pour la fête de l'Assomption, j'assistais à la messe le matin et j'entrais à l'hôpital l'après-midi. Je ne sais comment, j'eus alors la conviction profonde que je devais tout remettre à Marie et lui offrir ma maladie pour la France. Soudain, je fus envahie par une joie immense, comme venue d'ailleurs. Cette joie ne devait plus me quitter. Elle était présente chaque fois que j'entrais dans l'hôpital. On m'avait parlé de Saint-Nicolas des Champs, et un jeudi soir, je vins participer à la prière des malades. Mais là, en entendant les paroles données, j'eus le sentiment que moi, je ne serais pas guérie pour le moment et qu'il me fallait peut-être vivre les étapes de la maladie et des traitements. Je me suis dit, eh bien voilà, tu es malade. Oui, mais tu es chrétienne. Tu es chrétienne. Alors tu ne peux pas être une malade comme les autres. Et à cet instant, j'ai décidé de faire de ma maladie une grâce, de la voir comme une grâce qui m'était donnée. Il m'a semblé que la première chose à faire était d'offrir mes souffrances à Dieu. Alors, j'ai tout offert, autant que je le pouvais, la perte de mes cheveux, de mes cils, de mes sourcils, les 6 mois de chimiothérapie, l'opération, les séances quotidiennes de radiothérapie, les innombrables scanners et injections. Tout, j'ai tout donné. Les dernières séances de chimiothérapie, j'étais clouée au lit. J'avais les os broyés par les douleurs incessantes, jour et nuit. J'étais souvent obligée de m'alimenter à l'aide d'une paille. J'avais perdu 9 kilos. Pourtant, la joie me portait et me transportait. Autour de moi, je voyais souvent les malades que je rencontrais dans l'angoisse et le désarroi. Parce que le mot cancer est un mot qui tue. Je compris que je pouvais peut-être aussi alors offrir leurs souffrances en les unissant aux miennes. C'est ainsi que j'ai prié pour eux, en offrant à Dieu les souffrances qu'ils ne pouvaient sans doute pas offrir eux-mêmes. Dans cette épreuve, je n'aurais pas même pu m'apitoyer sur mon sort. Depuis le premier protocole de chimiothérapie, je n'avais plus de larmes. Mes glandes lacrymales ne fonctionnaient plus. J'avais beau éplucher des oignons pour vérifier, mais rien, pas une larme. L'avantage, c'est que je pouvais éplucher des kilos d'oignons sans problème. En mai dernier, j'ai appris que notre archevêque, Monseigneur Aupetit, invitait son diocèse à une célébration de libération et de guérison. Le samedi 11 mai, je me suis donc rendue à l'église Saint-Sulpice. Malgré la foule, j'ai pu trouver une place à l'intérieur. Au moment où le Saint-Sacrement fut exposé, je me mis à genoux et subitement, je ressentis une brûlure intense au niveau du sternum qui monta ensuite par le nez jusque dans les yeux. Soudain, des larmes se mirent à couler. Je ne pouvais pas les maîtriser. C'était la première fois que je pleurais depuis 1 an et demi. J'ai pleuré durant tout le temps de la célébration. En pleurant, je suis allée me confesser dans une chapelle latérale. J'étais un peu gênée et j'ai confié au prêtre ce qui m'arrivait. Il me dit que c'était le don des larmes. Oui, mais moi, je ne pouvais pas pleurer. C'est justement cela le don des larmes, me dit-il. Il y a quelques jours, j'ai refait une prise de sang générale avec les marqueurs. On m'a dit que pour le moment, tout était normal et que mon état était stabilisé. Dans cette épreuve, j'ai réalisé qu'il ne fallait peut-être pas voir la maladie comme une fatalité. Même si cela peut paraître très difficile, la première chose qu'il m'a fallu faire a été de l'accepter, puis de l'offrir. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour la joie qu'il m'a accordée. Parce que oui, on peut parfois être malade et pourtant heureux. Amen.
Voilà, donc Véronique nous montre bien que dans la maladie, le Seigneur peut aussi nous donner des joies et la paix, même si ça peut être aussi parfois très difficile, évidemment. Je vais vous donner quelques petits autres témoignages, notamment témoignage d'un homme musulman qui était venu à cette prière avec une collègue de travail qui était enceinte. Cette femme devait accoucher bientôt. Et pendant la prière des malades, cette femme a senti que ça bougeait dans son ventre. Elle a eu peur d'avoir des contractions, donc elle a voulu sortir. Mais son ami musulman lui a dit « T'inquiète pas, Jésus est là, il n'y a pas de problème. » Quelque temps après la prière, on a fait une échographie à cette femme. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant qu'elle vienne, l'enfant était mal positionné dans son ventre. Et pendant la prière, l'enfant a changé de place pour bien se positionner pour l'accouchement. Et c'est ça ce qu'elle a ressenti. Amen. Un autre témoignage, Sophia rend grâce à Dieu suite à une parole de connaissance du 18 octobre 2016. Elle était guérie au niveau de la nuque. La parole disait que le Seigneur guérit une tête qui dodeline, qui n'arrive pas à rester droite toute seule. C'est ce qui arrivait à Sophia. Et puis il y a une autre parole de connaissance, une autre fois, qui disait qu'une personne marchait parfois comme une ivrogne et qu'elle était guérie. Il se trouve que Sophia avait aussi un autre problème, c'était un problème d'oreille interne. Et du coup, parfois, sa démarche n'était pas tout à fait droite à cause de ce problème, elle avait des vertiges. Et suite à cette parole, eh bien, elle a été guérie. Deuxième parole, deuxième guérison. Et au mois d'octobre 2018, elle a également été guérie d'un profond chagrin que, a-t-elle écrit dans son message, Dieu seul pouvait guérir. Voilà, elle a été guérie de ce profond chagrin, de cet état dépressif, et elle termine son message par « Que le nom de Dieu soit loué éternellement ». Voilà, nous allons maintenant accueillir Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, Jésus réellement présent au milieu de nous, ce pain est devenu son corps, sa chair, au cours de la messe. Et maintenant, nous l'accueillons et nous voulons lui dire tout notre amour.